VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, au moins 12 militaires tués dans le centre du Mali, nous ferons le point avec notre correspondant Kassim Traoré. Nouvelle journée de mobilisation au Nigeria contre les violences policières. Lutte contre la pandémie du coronavirus, nouvelles mesures en Europe et dépistage massif en Chine après la découverte de 3 nouveaux cas à Qingdao dans l'Est. Deuxième jour de l'audition devant le Sénat américain de la juge Amy Barrett pour sa nomination à la Cour suprême. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. Attaque la nuit dernière d'un poste de l'armée malienne à Sokoura, cercle de Bankass, dans la région de Mopti. Le bilan provisoire fait état de 12 morts ainsi que des blessés du côté des militaires. Selon une source locale, les assaillants ont perdu 13 hommes. L'armée malienne a reçu du renfort, mais les dégâts matériels sont importants. De Bamako, la correspondance de Kassim Traoré.
Notre camp a été attaqué par des terroristes infiltrés. Un renfort a été dépêché. Au total, nous avons perdu 12 hommes, mais nous avons tué au moins 13 terroristes. Nous confie une source militaire basée dans la région de Mopti où s'est déroulée l'attaque. Cette attaque terroriste était complexe car il y a eu des engins explosifs. Mais ce matin, au moment où les renforts de l'armée passaient au niveau du pont de Parou, il y avait une embuscade tendue par les assaillants vers 8h30. Et c'est ce qui a d'ailleurs alourdi le bilan de l'attaque, qui est de 12 victimes du côté des Fama, 10 blessés dont des cas graves et des portés disparus. L'aviation militaire malienne, selon les habitants de la localité, est arrivée sur la zone du pont et a détruit 2 véhicules des terroristes. Avec cette intervention aérienne, le trafic a repris lentement dans la zone où déjà des populations commençaient à nourrir des espoirs avec des rencontres intercommunautaires sur la base du vivre ensemble et la lutte contre le terrorisme. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Des milliers de jeunes Nigérians sont descendus dans les rues aujourd'hui pour un nouveau jour de manifestation contre les violences policières dans plusieurs villes du pays et notamment à Lagos, mégalopole économique où ils bloquaient toujours plusieurs axes routiers importants. Jacques Aristide.
Les protestataires, qui ne se revendiquent d'aucune affiliation politique, se sont donné rendez-vous via les réseaux sociaux et notamment Twitter pour exiger le démantèlement de la SARS, une unité pour les crimes importants, vols, assassinats, parfois kidnapping, mais accusés d'extorquer la population, d'arrestations illégales, de tortures et même de meurtres. Après une semaine de forte mobilisation, la présidence nigériane a annoncé dimanche la dissolution avec effet immédiat de l'unité, mais cela n'a pas réussi à calmer les esprits ni à rassurer la jeunesse et les manifestations ont repris de plus belle. Un policier et un civil ont été tués hier pendant les protestations à Lagos, portant à au moins 5 le nombre de personnes tuées depuis le début du mouvement. Parmi les revendications, la création d'une entité indépendante chargée d'enquêter sur les abus policiers et la libération des contestataires arrêtés cette semaine. Des vedettes de l'afropop telles que P-Square et Falz ont conduit le mouvement ce mardi à Lekki, un quartier de Lagos où étaient réunis quelques milliers de personnes. D'autres marches étaient prévues dans les états d'Ondo, Oyo ou à Port Harcourt malgré leur interdiction et Abuja, la capitale fédérale.
Nigeria toujours, des membres présumés du groupe djihadiste Boko Haram ont tué 14 agriculteurs dans le nord-est du pays. Les attaques attribuées à Boko Haram et à l'ISWAP ciblent de plus en plus fréquemment des bûcherons, éleveurs et pêcheurs accusés de transmettre des informations aux militaires et milices qui combattent les violences djihadistes dans la région. En République démocratique du Congo, 13 personnes sont mortes dans un accident survenu la nuit dernière sur la route entre Kinshasa et Mbujimayi dans le centre.
Les Nations Unies ont demandé au Cameroun de libérer le principal dirigeant d'opposition, Maurice Kamto, et les autres individus arrêtés lors des manifestations du 22 septembre. Maurice Kamto affirme qu'il est séquestré chez lui contre son gré depuis 3 semaines pour avoir appelé à des marches pacifiques contre le régime de Paul Biya. L'assignation à résidence de Kamto pourrait constituer une privation de liberté en violation de ses droits, ont déclaré hier le plus grand corps d'experts indépendants au sein du système onusien des droits de l'homme. Au Soudan, le Premier ministre Abdallah Hamdok a démis de ses fonctions le gouverneur de l'État du Kassala pour atténuer les tensions tribales dans la région. La nomination en juillet de Saleh Amar, qui appartient à la tribu des Beni Amr, avait suscité la colère des Béja, l'autre grande tribu de la région. Fin août, des affrontements tribaux avaient fait 3 morts et la semaine dernière, des membres de la tribu Béja avaient bloqué les docks de Port-Soudan, poumon économique du pays. En Tunisie, des manifestations de colère ont éclaté à Sbetla, dans le centre-ouest du pays, où un homme est mort après que la municipalité a détruit le kiosque à journaux dans lequel il dormait, poussant les autorités à déployer des renforts.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Remontée inquiétante des cas de Covid-19, les pays européens continuent à prendre de nouvelles mesures alors que la Chine poursuit le dépistage express d'une métropole entière après la découverte d'un mini-foyer de contamination. Le point avec Abdourahman Dia.
Les autorités chinoises ont indiqué que 4 millions d'échantillons ont été prélevés en 2 jours à Qingdao, métropole de l'est du pays qui organise un dépistage de ses 9 millions d'habitants. La mairie dit ne vouloir prendre aucun risque depuis la découverte ce week-end de 3 cas positifs. Devant l'ampleur de la pandémie dans le monde, l'Organisation mondiale de la santé se prononce contre l'immunité collective comme stratégie de lutte. C'est scientifiquement et éthiquement problématique, a déclaré le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. En Europe, les ministres des Affaires étrangères ont adopté ce mardi des critères communs pour coordonner les restrictions de voyage dans l'Union européenne au moment où la pandémie connaît une reprise inquiétante sur le continent. Au Royaume-Uni, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé la fermeture des pubs à Liverpool et réactivé 3 hôpitaux de campagne mis en place au printemps. Des nouvelles mesures de restriction sont aussi annoncées en Italie et en France. Par ailleurs, le groupe pharmaceutique Johnson & Johnson a annoncé la suspension de son essai clinique d'un vaccin contre le Covid-19 après que l'un des participants est tombé malade.
Ici aux États-Unis, le Sénat a poursuivi ce mardi l'audition de la juge Amy Coney Barrett, nommée par le président Donald Trump à la Cour suprême. Les sénateurs lui ont posé des questions sur sa foi chrétienne et des sujets comme l'avortement. Mohamedou Oumfa nous en dit plus.
Amy Coney Barrett a reconnu être attachée aux enseignements de l'Église catholique. « Notre foi est importante pour nous », a-t-elle indiqué en mentionnant son mari et ses enfants. Elle a cependant assuré que sa foi ne pèserait pas dans ses décisions. « Pouvez-vous mettre vos convictions religieuses de côté ?» lui a alors demandé le sénateur républicain Lindsey Graham. « Oui, je le fais en tant que juge d'une cour fédérale à Chicago. Et si je suis confirmé, je continuerai à le faire à la Cour suprême, a-t-elle promis. » La doyenne démocrate du Sénat, Dianne Feinstein, l'a ensuite pressée de questions sur une série de sujets brûlants, à commencer par le droit de l'avortement reconnu par la Cour suprême en 1973. Mais elle n'a pas obtenu de réponse. Les juges ne peuvent pas se lever un matin et dire « j'aime ou je déteste l'avortement » et imposer leur volonté comme des figures royales, a déclaré Amy Coney Barrett. L'audition de la juge de 48 ans est une étape cruciale avant le vote du Sénat devant confirmer ou non sa nomination comme juge à la Cour suprême.
Au Nagorno-Karabakh, des combats intenses continuent d'opposer forces séparatistes arméniennes et armées azerbaïdjanaises, ignorant toujours une trêve humanitaire aux grandes dames de la Croix-Rouge, qui estime à des centaines de milliers de personnes la population affectée par le conflit. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a appelé aujourd'hui l'Arménie et l'Azerbaïdjan à appliquer le cessez-le-feu conclu mais non respecté. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nanit Talani.
La Banque africaine de développement a donné 9,5 millions d'euros à la Centrafrique pour financer la deuxième phase du projet de modernisation de l'aéroport international de Bangui-Mpoko d'ici à 2022. Ces fonds représentent 80,81% du coût total de l'infrastructure contre 19,19%, soit 2,25 millions d'euros de l'apport centrafricain. La banque compte aussi développer des filières de production et créatrices d'emplois, dont les produits vivriers, la pêche et l'élevage. En RDC, le gouvernement veut lever 15 milliards de francs congolais, soit 7,5 millions de dollars sur le marché financier interne ce 13 octobre, à la faveur d'une adjudication des bons du Trésor de 3 mois d'échéance. Les autorités congolaises envisagent de lever jusqu'à 80 milliards de francs congolais au cours de ce mois, annonce le ministère des Finances, cité par Financial Afrique. Cette sortie intervient après celle du 6 octobre dernier, qui a permis au gouvernement de lever environ 10 milliards de francs congolais sur une demande de 15 milliards. Pour terminer, l'allègement de la dette des pays pauvres est plus faible que prévu, car tous les créanciers n'y participent pas pleinement. Seulement 5 milliards de dollars sur les 8 à 11 milliards prévus ont été accordés, regrette le président de la Banque mondiale, David Malpass. Il dénonce aussi le manque de participation des créanciers du secteur privé au moratoire.
Et maintenant, la page sport, présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Cristiano Ronaldo, la star portugaise du football, a été testé positif au Covid-19 et sera forfait contre la Suède demain soir à Lisbonne en Ligue des Nations. L'annonce a été faite par la Fédération portugaise de football 2 jours après le match nul 0-0 du Portugal contre la France, auquel l'attaquant de la Juventus Turin a participé. L'attaquant vedette de la sélection portugaise est asymptomatique et se trouve en quarantaine, a précisé la Fédération, qui ajoute que les autres joueurs de la sélection sont tous négatifs. Le nouveau coronavirus qui s'invite décidément dans les rassemblements des différentes sélections lors de ces journées FIFA, d'après les sites sénégalais Imedia SN et Sénéweb, qui citent un communiqué de la Fédération sénégalaise de football. Le match amical qui devait opposer le Sénégal à la Mauritanie a été annulé à quelques heures du coup d'envoi à cause de 8 cas positifs au Covid-19 au sein de la délégation mauritanienne. Même situation pour le Mali, après la découverte de 4 cas positifs la semaine dernière au sein des Aigles maliens. Moula Wagé, Boubacar Kouyaté, Ali Girango et Amidou Traoré, la Fédération malienne de football annonce que 2 nouveaux cas ont été détectés sans dévoiler l'identité des concernés. Conséquence, le match amical de ce mardi contre l'Iran à Antalya en Turquie a été annulé, à suivre entre autres matchs amicaux ce soir, Maroc, République démocratique du Congo, Nigeria, Tunisie et Mexique, Algérie. Hier, les étalons du Burkina ont couronné leur stage au Maroc par un second match amical face au Barya de Madagascar, match gagné 2-1 par le Burkina Faso à El Jadida. Voici la correspondance de Kader Traoré.
Après avoir battu les Léopards du Congo par 3-0, les étalons du Burkina ont conclu leur stage au Maroc par une autre victoire sur les barrières de Madagascar. Bertrand Traoré, capitaine des étalons.
On a été sérieux dans tout ce qu'on a fait. Aujourd'hui contre le Madagascar, je pense que c'était un adversaire encore plus athlétique, très bien organisé défensivement, ce qui nous a donné un match un peu plus compliqué que face à la RDC.
Ce regroupement de 2 semaines, le coach des étalons, Kamou Malo, en avait besoin pour créer la cohésion et l'esprit d'équipe au sein de sa formation.
Là où nous avons le plus réussi, c'est dans la construction du groupe. Nous avons rassemblé des jeunes, des nouveaux qui sont venus, qui sont pu s'intégrer facilement, en tout cas au reste du groupe. Et sur le plan discipline, ils sont accrochés au wagon et c'est ce qui me réjouit aujourd'hui.
Bilan pleinement satisfaisant pour les étalons. Cap maintenant sur la double confrontation face au Malawi en novembre prochain. Kader Traoré à Al Jadida au Maroc pour VO Afrique.
Satisfait ici également en face pour le sélectionneur des Barrières de Madagascar.
En l'absence de 5 titulaires, on a quand même montré une belle partition, donc je suis content parce que ça me donne plein de possibilités et c'est de bon augure pour la suite.
Nicolas Dupuis, sélectionneur de Madagascar au micro de Kader Traoré depuis Al Jadida au Maroc.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibour, toujours avec vous. Place au dossier du jour. Nous ouvrons cette partie magazine avec le Bénin, où les écoles ont réouvert leurs portes depuis le 28 septembre, après que les vacances se soient déroulées dans des conditions particulières dues à la pandémie du coronavirus. Mais dans certaines localités du pays, cette rentrée des classes a été repoussée à cause des inondations. Les précisions de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Ma voix, l'égalité pour notre avenir, c'est le thème de réflexion de cette année qui appelle à donner aux jeunes filles la chance de s'épanouir et de jouer pleinement leur rôle dans le développement de leur pays. Et s'il y a un combat que mènent les acteurs de défense des droits de jeunes filles au Bénin, c'est celui contre la maltraitance. C'est le cas de Prémissia, orpheline. Elle a atterri chez une connaissance de sa mère qui avait promis la laisser poursuivre ses études. Mais elle a fini dans la rue après s'être rebellée. Elle raconte sa mésaventure.
J'ai passé à peine une semaine avec elle. Elle est encore allée me placer ailleurs. Des placements sur placements chaque fois. Et un jour, je lui ai dit non, que je ne pouvais plus. J'en avais marre d'être placée. À chaque fois, elle recevait l'argent et qu'elle partait. Moi, je devais subir le coup que je ne voulais plus. Elle a dit non, que si je ne veux pas de me débrouiller seule, qu'elle n'a pas demandé à quelqu'un de venir dans la vie.
La traite et le mauvais traitement des jeunes filles, c'est dans toutes les communes du Bénin, même si certaines le font plus que d'autres. Dans le zoo, à 132 km de Cotonou, le phénomène se développe au vu au sud de la population pour qui cela paraît normal. Antoine Despoings est un éducateur. Il se bat chaque jour pour lutter contre le phénomène.
Au départ, la population était résistante. Qui n'a pas de traite dans la commune? Mais à force de donner la définition de la traite, de donner un peu les manifestations, la conséquence de la traite, ils ont compris. Nous avons pu récupérer 23 enfants.
Christine Chetanyi a un centre d'écoute et d'aide des jeunes filles qui se retrouvent dans des situations de mauvais traitement. Pour elle, le plus dur, c'est d'arriver à raisonner les parents qui disent savoir ce qui est bien pour leur fille.
Je vous avoue que c'est pas facile. Parce qu'il y a des fois, tu peux aller vers des parents qui vont te chasser. Maintenant, si l'enfant vient, on l'écoute. Nous les amenons à avoir le goût de la vie.
Chanceline Mevoanou est webactiviste. Sur les réseaux sociaux, elle se bat activement contre le mariage forcé et précoce.
Pour la plupart des cas, soit sa fille, leur mère ne sont plus avec le père et c'est la famille qui veut leur donner un mariage forcé. La famille pense que quand on va donner cette fille à un homme, l'homme va mieux prendre soin d'elle et lui donner à manger. Mais ce qu'elle vit chez l'homme, c'est le contraire.
Le combat pour l'épanouissement de la fille intéresse bien de personnes au Bénin. Cécile est une chanteuse. Pour elle, on ne devrait pas excuser le traitement infligé aux jeunes filles.
Rien n'est éternel. Nos traditions, nos mœurs, nos coutumes ont certainement des carences qui ne servent pas l'être humain, qui ne servent pas la femme. Il faut pouvoir les amender, discuter avec les dignitaires pour voir comment est-ce qu'on peut enrayer cela. Mais une fille qui n'est pas encore en âge, garder une grossesse, qui est donnée en mariage, qui subit des rapports sexuels de force, donc c'est une très belle cause et je suis prête et je me suis engagée dedans.
Au niveau juridique, c'est souvent difficile d'agir selon Maître Marie-Élise Bédo qui a choisi depuis de nombreuses années de se battre pour l'épanouissement des filles et des femmes.
Déjà, elle est la victime, mais elle te dira « je ne peux pas amener mes parents en justice ». Nous, on ne peut pas se substituer à la fille pour saisir le parquet, par exemple, pour violence.
La célébration de la Journée internationale de la jeune fille a lieu cette année dans le contexte d'une crise sanitaire qui a touché la jeune fille de diverses manières. La fermeture des écoles les a exposées aux grossesses précoces, aux mauvais traitements et à la violence de tout genre. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Les mutilations génitales féminines concernent plus de 130 millions de filles et femmes dans le monde, avec plus de 3 millions de nouveaux cas par an. Dans sa nouvelle chanson « Mon histoire », la chanteuse germano-burkinabé Fénoz en parle. Survivante d'une excision suivie de graves complications, sa vie a changé lorsqu'elle a opté pour une opération chirurgicale reconstructrice au Burkina Faso, où elle a subi les MGF à l'âge de 5 ans. Jointe à Berlin par Nathalie Barge, elle revient sur cette opération qui lui a demandé beaucoup de courage.
Je ne me suis pas acceptée en tant que femme parce que du fait que j'ai été excisée, je me sentais d'une manière démunie dans ma personne. Et ça, ça m'a causé un réel problème. Et là, je me suis dit, alors, comme il est possible de faire la réparation physique, je dis physique parce que psychologique c'est autre chose, et des séquelles de l'excision, j'ai pris cette initiative de faire cette opération. Je suis rentrée au Burkina Faso pour le faire, c'est pour vous dire qu'au Burkina Faso on peut faire cette opération, je suis allée le faire là-bas. Mais d'abord, c'était vraiment une vraie préparation psychologique. Et c'est être prêt aussi à affronter, à repartir dans son enfance pour revivre en fait cette scène de l'excision. C'est faire face à sa plus grosse peur. Et je vous assure que quand l'opération a été faite, moi je me suis réveillée. Bien vrai que pendant une semaine, je ne vais pas vous mentir, il y a une douleur qui est là. Mais après une semaine, on commence à aller mieux. Et c'est vrai que je suis repartie dans l'enfance, j'ai revécu toute cette scène et tout. Mais comment je me suis sentie soulagée quand je me suis réveillée après l'opération, comme a dit, ben voilà, il y a une réparation qui a été faite, il y a le clitoris qui a été en partie reconstruit. Je me suis sentie renaître.
Fénoz, le milieu de la musique, vous le dites dans la chanson elle-même, vous rappelez que c'est un milieu très difficile et particulièrement difficile pour les femmes, on imagine. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ces difficultés que vous avez rencontrées dans la musique ?
Bien entendu, avec plaisir. C'est-à-dire que en voulant rester ma personne en part entière, en me disant non, je dois être vue pour ce que je fais, ce que je transmets, c'est ça qui doit être vu. Mais j'ai été toujours en grande partie confrontée à ce fait, c'est-à-dire qu'il faut que je m'expose moi-même, il faut que j'accepte des propositions qu'on me fait et tout. Bon, voilà.
Soyez plus clair, quel genre de proposition?
C'est-à-dire qu'il y a des scènes de concert qu'on peut te proposer parce que ben voilà, tu vas accepter de passer au lit avec un des promoteurs.
Mais vous ne le dénoncez pas au niveau de la justice, ce type de comportement, parce que c'est assez grave.
Non, c'est pas la peine, hein, parce que c'est tellement drôle, parce que le monde est hypocrite, parce que dans le milieu artistique, c'est beaucoup plus à vue, mais ça se retrouve dans toutes les couches de la société. Yeah, yeah. Yeah, yeah,
yeah. C'est Fénoz. C'était la chanteuse germano-burkinabé Fénoz. Elle était jointe à Berlin.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au moins 3000 enseignants camerounais ont rejeté l'offre de l'armée d'assurer leur transport pour qu'ils puissent retourner dans les écoles des régions anglophones qu'ils avaient fui en raison de l'insécurité. Ces régions sont proies à des attaques de séparatistes et à des pillages, entre autres. Les enseignants disent craindre pour leur sécurité puisque les séparatistes menacent ceux qui retourneraient dans les salles de classe. Reportage à Yaoundé de Moki Edwin Kinzeka avec le récit d'Abdourahman Dia.
Fou Isaac est un enseignant du primaire âgé de 47 ans. Il fait partie de ceux qui ont décliné l'offre de l'armée camerounaise de l'accompagner à son école dans la région anglophone agitée. Cependant, il dit que 6 de ses collègues ont accepté d'être transportés par les militaires de la ville de Bamenda, à Ndop, dans la région anglophone du Nord-Ouest.
Les autorités amènent désormais les enseignants qui ne peuvent pas accéder à leur poste dans des véhicules blindés. Mais la question est de savoir comment ces enseignants vont se débrouiller lorsqu'ils n'auront pas ces véhicules blindés.
Frou reste convaincu que les combattants se cachent toujours dans la brousse, prêts à commettre des atrocités sur les enseignants et les étudiants lorsque les escortes militaires partiront. Pour sa part, Anderson Ketong, un responsable gouvernemental dans la zone, a déclaré que les enseignants qui ne retourneraient pas à l'école seraient sanctionnés. Ketong dit que l'armée est là pour veiller au grain et punir les séparatistes qui menacent les parents qui envoient leurs enfants à l'école.
Tout le monde, en particulier les enseignants qui continueront à insister sur le boycott, doit savoir que nous considérons qu'ils ont un agenda caché égard à quiconque continuera à mener une campagne de sensibilisation en faveur de cette idée de boycott.
Les autorités estiment que 140 sur près de 500 écoles fermées par des combattants au cours des 4 dernières années avaient rouvert, permettant le retour d'environ 30 000 élèves qui étudient dans l'anxiété. L'Association des enseignants du Cameroun a déclaré qu'au moins 300 enseignants sont retournés dans les écoles des régions anglophones. Et selon l'association, de nombreux enseignants préféraient rentrer seuls de peur d'être identifiés aux militaires par les combattants. Le colonel Léou Fesso, en charge de la sécurité routière au ministère de la Défense du Cameroun, a fait savoir que des troupes spéciales avaient été déployées pour assurer la sécurité des enseignants et des élèves dans toutes les écoles de la région.
Our forces made it possible to restore serenity in these areas affected by crisis.
Nos militaires ont permis de restaurer la sérénité dans ces zones touchées par la crise. Nous pouvons donc rassurer l'ensemble de la communauté éducative de ces zones sur les mesures de protection prises par les forces de défense et de sécurité pour une année académique 2020-2021 fluide et réussie.
Le gouvernement camerounais encourage également la création de milices autour des écoles pour informer l'armée de tout mouvement aux visiteurs suspects. Le conflit séparatiste au Cameroun a fait plus de 3 000 morts et un demi-million de déplacés selon les Nations Unies. La crise a commencé en 2016 lorsque des enseignants et des avocats sont descendus dans la rue pour se plaindre de l'influence dominante de la langue française dans ce pays bilingue.
Un nouveau rapport de la Banque mondiale indique que le taux de déforestation annuel au Ghana est d'environ 3,51%, ce qui signifie que le pays perd au moins 315 000 hectares de forêt par an pour un coût d'environ 400 millions de dollars. Pour aider à changer la donne, un projet ghanéen promeut le reboisement durable par la vente de bois, de semis, d'huile essentielle et de visites éducatives en forêt. Breman Bedoum a visité une communauté agricole de la région centrale du Ghana. Dilidiko raconte.
Wellington Biden compare cette forêt de 85 hectares à un supermarché vert car elle produit du poisson, des fruits, des pousses et des graines, des huiles essentielles et bien sûr du bois. La forêt génère des revenus à court et à long terme. Lorsque Biden commence sa récolte issue des arbres qu'il a plantés il y a 20 ans, il en replante de nouveaux et crée d'autres sources de revenus dans la forêt pour assurer sa pérennité et faire en sorte qu'elle profite aux communautés. C'est selon lui la clé de la durabilité.
Having a working forest is...
Avoir une forêt en activité est, je dirais, un élément clé dans la restauration. D'une part, cela crée des emplois pour la communauté. Et d'autre part, parce que l'empiètement humain se fait uniquement par les personnes ayant besoin de la forêt pour survivre.
L'une des entreprises de Biden produit des huiles essentielles. Il travaille avec des agriculteurs locaux pour cultiver des plantes aromatiques comme l'ylang-ylang et la citronnelle afin d'augmenter la production d'huiles destinées à la vente sur les marchés internationaux. Le chercheur en chimie, Justice Cranstill, distille les huiles des plantes. Il dit qu'il est le seul membre de sa promotion dans ce domaine qui, selon lui, aidera l'avenir du Ghana.
The fact that you are not really
le fait de ne pas détruire la forêt, de ne pas couper d'arbres et le fait que nous n'utilisons aucun engrais dans la forêt fait que tout ce que nous avons ici vient de mère nature. C'est vraiment top.
Le chercheur espère que ce projet deviendra un modèle qui permettra de s'assurer que d'autres forêts sont épargnées et qui montrera aux gens que la protection des forêts a des avantages financiers à long terme. À 90 km de là, des militants se battent pour sauver une autre forêt des projets d'exploitation minière du gouvernement. Daryl Bossou, à la tête d'une organisation environnementale, déclare que l'idée de la forêt multi-ressource est essentielle pour inverser la tendance à la déforestation au Ghana.
Je pense que c'est une bonne source d'inspiration pour chaque entrepreneur, chaque homme d'affaires. Désormais, la gestion des forêts n'est plus une prérogative de l'État, elle est du ressort de chaque individu, car les bénéfices potentiels sont énormes.
Biden prévoit également une plus grande distillerie, un éco-hôtel et un centre d'apprentissage dans la forêt pour former les agriculteurs et les visiteurs qui pourront en apprendre davantage sur ce projet forestier. Avec un peu de chance, dit-il, cela inspirera les gens à se rendre compte des avantages des forêts durables qui créent des richesses en continu.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram bien sûr. Excellente soirée à l'écoute de nos programmes.